Laudetur Jesus Christus.
L'Angélus du Pape François a invité les fidèles à réfléchir sur l'attente confiante. Le Saint-Père a commenté la parabole de la semence qui grandit. On y revient juste après les titres. Sommet sur l'Ukraine en Suisse, le cardinal Parolin y représentait le Saint-Siège. Le soutien à la souveraineté de Kiev y a été réaffirmé. Et nous verrons également la réaction de Moscou. Les deux parties ne semblent vraiment pas parler la même langue. Accalmie dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a décidé d'opérer une pause toute relative dans un secteur bien précis du territoire palestinien, ce qui n'est pas sans provoquer des tensions avec les autorités civiles israéliennes. Retour dans notre dossier sur la campagne législative en France, entre extrême droite en force, gauche unie et centre en sursis. Nous verrons que l'enjeu de ces élections surprises est bien l'arrivée ou non au pouvoir de l'extrême droite. À suivre donc à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal. Xavier Sartre.
Bonjour. Retour sur l'Angélus donc du pape François hier midi, place Saint-Pierre. Le Saint-Père a exhorté à semer l'évangile où nous sommes avec confiance et attendre que la graine semée croisse. Dans son commentaire de l'évangile de ce dimanche, il est revenu donc sur cette parabole de la semence, invitant les fidèles et les pèlerins à réfléchir sur l'attente confiante. Les précisions de Myriam Sanduno.
Lo fa invitandoci a riflettere in particolare su un atteggiamento l'attesa fiduciosa.
Pour mieux clarifier le sens de l'attente confiante, François établit tout d'abord une liaison entre cette attitude à adopter en tant que chrétien et l'image de la semence évoquée plusieurs fois par Jésus dans ses enseignements. Dans les semailles, quelle que soit la qualité et l'abondance avec lesquelles l'agriculteur répand la semence, les plantes ne germent pas immédiatement. Il faut du temps, a fait comprendre le Saint-Père. Sous terre se produit déjà le miracle. Entre-temps, il faut continuer à soigner les mottes et à les arroser, a indiqué le pape, soulignant ensuite qu'il en est de même pour le royaume de Dieu. En chacun, le Seigneur met les semences de sa parole et de sa grâce. Il reste patient.
Il Signore mette in noi semi della sua parola e della sua grazia. Aspetta con pazienza.
Si le Seigneur est patient, nous devons en faire de même pour les autres, a conseillé le pape, invitant à semer avec confiance l'évangile là où nous sommes et à attendre ensuite que la graine semée porte du fruit en nous et dans les autres sans nous décourager et sans cesser de nous soutenir.
Myriam Sanduno, et pour plus de précisions sur ce commentaire, rendez-vous bien sûr sur notre site internet www.vaticannews.va. Le Congo, au cœur des prières du pape, après la prière de l'Angélus, François évoquait les douloureuses nouvelles d'affrontements et de massacres perpétués dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-il dit, adressant un appel aux autorités nationales et à la communauté internationale pour qu'elles fassent leur possible pour que cessent les violences et que la vie des civils soit protégée. Le Saint-Père a précisé que parmi les victimes, nombreux sont les chrétiens tués en haine de la foi. Ce sont des martyrs, a-t-il affirmé. Leur sacrifice est une semence qui germe et qui porte des fruits et qui nous enseigne à témoigner de l'Évangile avec cohérence et courage. Le pape faisait référence au massacre de ces derniers jours. Samedi tout d'abord, au moins 7 personnes ont été tuées lors d'émeutes dans la province du Nord Kivu après que la population est descendue dans la rue pour protester contre la multiplication des attaques meurtrières menées par des rebelles se réclamant de l'État islamique. Les ADF dont il s'agit auraient tué plus de 40 personnes dans l'attaque d'un village. 80 autres civils ont été massacrés par ailleurs la semaine précédente. L'Ukraine dans les prières du pape également. L'Ukraine qui a fait l'objet d'un sommet sur la paix ce week-end dans les Alpes suisses. Sans Moscou et Pékin, les 90 États représentés, dont le Saint-Siège, réitèrent leur soutien à l'indépendance et la souveraineté territoriale de l'Ukraine plus de 120 semaines après l'invasion russe. La majeure partie des pays sont tombés d'accord sur les conditions pouvant mettre fin à la guerre. Mais jusqu'où y impliquer la Russie? La question reste ouverte, Delphine Allaire.
Oui, Xavier, 80 sur 90 pays soutiennent cette déclaration finale dont l'objectif est bien de fédérer autour d'une proposition de paix qui pourrait ensuite être présentée à Moscou. Mais pour l'heure, Brésil, Inde, Arabie, Émirats, entre autres, ne l'ont pas signé, déplorant la non-association de la Russie à ce processus en Suisse. Le document la mentionne toutefois, appelant bien à impliquer toutes les parties. Il dénonce la militarisation de la sécurité alimentaire, exige la liberté de navigation en mer Noire, la sûreté nucléaire nucléaire, mais aussi la libération par échange complet des prisonniers de guerre et le retour des 20 000 enfants ukrainiens illégalement déplacés par la Russie, une préoccupation vaticane majeure. À cette conférence où le Saint-Siège avait rang d'observateur, le cardinal Parolin a donc appelé à renforcer les moyens pour faciliter le retour de ces enfants. Le Vatican maintient un contact direct avec Kiev et Moscou pour améliorer le mécanisme créé en ce sens après la visite du cardinal Zuppi, envoyé du pape pour la paix. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a bien sûr réitéré la disponibilité de Rome à soutenir d'éventuelles initiatives de médiation et insisté, Xavier, sur le respect du droit international pour la souveraineté et l'intégrité de chaque pays.
Delphine Allaire et autres figures chrétiennes avec statut d'observateur à ce sommet, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, personne en revanche du patriarcat de Moscou à ce sommet qui devrait être suivi de réunions techniques et ministérielles avant une seconde édition. Allons maintenant en Russie pour voir comment Moscou a réagi à cette conférence à laquelle donc elle n'a pas participé. La présidence russe a toujours vu d'un mauvais œil cette rencontre qui, visiblement, n'a fait qu'illustrer la poursuite d'un dialogue de sourds. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
Au vu des déclarations de Volodymyr Zelensky, qui affirmait hier soir être prêt à négocier dès demain si la Russie respectait l'intégrité territoriale de l'Ukraine, on ne peut qu'en déduire que malgré les efforts déployés dans le cadre de cette conférence pour la paix, Kiev et Moscou ne parlent pas la même langue. Vendredi, Vladimir Poutine avait annoncé que si les troupes ukrainiennes se retiraient des régions de Kherson et de Zaporijja, comme des républiques de Donetsk et de Lugansk, et que Kiev s'engageait à ne pas intégrer l'OTAN pour bénéficier d'un statut de pays neutre, alors le cessez-le-feu serait immédiat. Une proposition que le porte-parole du Kremlin a qualifiée de concrète et basée sur les réalités du terrain. De façon générale, le monde politique russe s'étonne des conclusions d'une conférence internationale qui ne tiennent pas compte du point de vue de la Russie. Une Russie qui estime que cette conférence a porté non pas sur la paix, mais sur des questions humanitaires ou la sécurité énergétique, comme l'a fait savoir Konstantin Kossachev, président de la Commission des affaires étrangères de la Douma. Autant de problématiques qui, selon lui, attisent la sensibilité des pays du Sud, mais qui n'ont rien à voir avec la paix. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Mauvaise communication entre la Chine et les Philippines en mer de Chine méridionale. Ce matin, un navire philippin de ravitaillement et un bateau des gardes-côtes chinois sont entrés en collision près des îles Spratly que se disputent les deux pays. Selon les Chinois, ce sont les Philippins qui ont ignoré les nombreuses sommations de la partie chinoise. Des affirmations trompeuses et mensongères selon Manille. Les incidents en mer se multiplient ces dernières semaines entre Chinois et Philippins. Amélioration en revanche des relations entre la Chine et l'Australie. Elles sont même sur la bonne voie, affirmé ce matin à Canberra le Premier ministre chinois Li Qiang. À la visite du chef du gouvernement chinois doit sceller l'apaisement des contentieux économiques et politiques entre les deux pays qui existaient depuis 2020. Comme toujours depuis 8 mois, le pape a appelé hier lors de l'Angélus à prier pour la paix en Terre Sainte, alors qu'aucun accord de cessez-le-feu n'a pour l'instant été signé entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. La journée d'hier a été relativement calme. L'armée israélienne a en effet décidé d'opérer une pause très limitée dans ses opérations. Les précisions de Sandy Fortis.
Tzal a annoncé dimanche matin une pause tactique quotidienne, effective immédiatement et jusqu'à nouvel ordre. Elle sera observée tous les jours, de 8h à 19h, heure locale, depuis le point de passage de Kerem Shalom jusqu'à la route Salah al-Din, puis vers le nord. Une décision prise dans le but de permettre aux camions humanitaires d'entrer sur le territoire gazaoui, mais surtout de permettre à l'ONU et aux autres ONG de distribuer cette aide. L'annonce de cette pause tactique a suscité de vives réactions en Israël, notamment au niveau de l'échelon politique. Le bureau du Premier ministre a déclaré y être opposé. Benjamin Netanyahou a même qualifié le projet d'inacceptable, laissant entendre qu'il n'était pas au courant de cette mesure. L'armée prétend le contraire, expliquant que le Premier ministre a donné la directive de tout mettre en œuvre pour permettre l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire. Tzal a toutefois précisé qu'il n'y a pas d'arrêt des combats dans le sud de la bande de Gaza et que les opérations à Rafah se poursuivent. La pause ne concerne que la zone indiquée. De son côté, l'ONU a salué cette initiative mais demande d'autres mesures concrètes pour faciliter l'aide humanitaire. Depuis Tel Aviv, Sandy Fortis, journaliste i24 News pour Radio Vatican.
Cette décision de l'armée israélienne a été saluée hier par l'ONU qui demande toutefois que cela conduise à d'autres mesures concrètes pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile. Quant au président américain, Joe Biden a défendu de nouveau hier son plan de cesser le feu dans un message aux musulmans à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha. La liste des candidats pour les législatives anticipées en France est close depuis hier soir minuit, après la dissolution décidée par le président Macron le soir même des européennes dimanche dernier. Les partis politiques français ont une semaine pour se mettre en ordre de bataille en vue du premier tour qui aura lieu le 30 juin. Une semaine riche en rebondissements. Les formations ont été prises en effet par surprise par la décision d'Emmanuel Macron. Alors si les partis de gauche et d'extrême gauche ont rangé leurs désaccords pour s'unir, la droite et le Parti des Républicains, tout particulièrement, elle s'est déchirée, tandis que le centre tente de rebondir après la claque reçue aux européennes. Au-delà des programmes des uns et des autres, la campagne depuis une semaine tourne autour d'un mot, l'extrême droite. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, elle pourrait obtenir en effet le pouvoir au niveau national, ce qui est le principal enjeu de ces législatives, comme le confirme Vincent Martini, professeur de sciences politiques à l'Université Nice Côte d'Azur et à l'École Polytechnique.
C'est l'enjeu essentiel parce que dans l'histoire politique française, l'arrivée de l'extrême droite à Matignon au pouvoir, hein, dans une période de cohabitation, il faut se souvenir que la majorité parlementaire et le Premier ministre disposent de la quasi-intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 et 20 de la Constitution, c'est-à-dire conduire la politique de la nation. Le président de la République a un rôle qui se réduit à la question de défense et de politique étrangère, ce qui reste faible au regard de ses attributions habituelles. Et donc oui, évidemment, la question de savoir si l'extrême droite, pour la première fois de l'histoire politique française depuis 1940, va parvenir au pouvoir, est très clairement le grand enjeu de ces élections.
La nouveauté de cette campagne, c'est la rupture, on va dire, officielle de la digue qui existait entre l'extrême droite et la droite, on va dire, classique, en l'occurrence, le parti des Républicains. C'est un tournant, cette rupture, pour la vie politique française ?
Alors, c'est à la fois une continuité, puisque ça fait maintenant des années que nous, les gens qui étudions les élections, on voit bien un glissement des valeurs et des prises de position de certains leaders des Républicains qui, depuis Nicolas Sarkozy, surtout la partie 2012, la campagne de Nicolas Sarkozy pour sa réélection, avait très largement droitisé la droite et avait fait des clins d'œil appuyés au Rassemblement national et à ses idées. Donc là, il n'y a pas une surprise totale parce qu'en réalité, ça fait longtemps que ça couve. Certains pourraient appeler ça une clarification, en tout cas de la ligne. Mais en même temps, les leaders des Républicains avaient toujours défendu l'idée qu'il n'y aurait jamais d'alliance avec le Rassemblement national. Donc oui, là, il y a une rupture totale dans l'histoire politique de la droite française et dans l'histoire de la vie politique française. Et la deuxième raison pour laquelle cet événement est très important, c'est que dans l'histoire de la Ve République, une famille politique seule, très rarement arrivée au pouvoir, sans coalition. Donc le fait de s'afficher comme un alliage entre la droite et l'extrême droite permet à la fois de créer un narratif qui est peut-être plus rassurant pour les électeurs de droite, de se dire qu'une partie de leur famille politique sera liée au gouvernement, mais ça peut créer une efficacité électorale dans certaines circonscriptions, si vous voulez, où le Rassemblement national n'aurait pas parvenu à obtenir 50% des voix. Donc,
après la NUPES, on a le nouveau Front populaire. On a l'impression qu'on prend un peu les mêmes et qu'on recommence. C'est vraiment différent? Ou bien est-ce que c'est le langage, en tout cas les apparences simplement, qui ont changé?
Il y a des points communs, évidemment, avec la NUPES. D'abord parce que ce sont les mêmes partis qui font coalition, parce que le programme de 2024 à certains aspects ressemble au programme de 2022, mais il y a aussi quand même des différences assez marquées. D'abord, dans l'équilibre entre les partenaires. La NUPES 2022 était très largement dominée par la France insoumise, hein, qui avait 150 circonscriptions de plus que le Parti socialiste, qui était la deuxième force de cette coalition. Dans le cas du nouveau Front populaire, le rapport de force est beaucoup plus équilibré, puisque si la LFI a encore une cinquantaine de circonscriptions de plus, en réalité, le nombre de circonscriptions gagnables, c'est-à-dire là où la gauche a une chance, eh bien, montre un équilibre beaucoup plus grand entre les forces politiques. Deuxièmement, le programme lui-même a quand même été amendé dans certains endroits. On ne mentionne plus la retraite à 60 ans que comme un objectif de long terme et non pas comme une priorité. Et puis, dernière différence, c'est que la NUPES en 2022 connaissait au sein de la gauche une opposition, notamment de la part des anciens proches de François Hollande et de François Hollande lui-même, de tous ces gens qui se définissaient comme une gauche universaliste, modérée, de centre-gauche, eh bien, tous ces gens aujourd'hui soutiennent le nouveau Front populaire. Et donc là, il y a une bascule, parce qu'il n'y a plus une division au sein de cette gauche dont pourraient se servir les adversaires de ce Front populaire. Donc il y a quand même des différences assez marquées.
Vincent Martini, professeur de sciences politiques à l'Université Nice Côte d'Azur et à l'École Polytechnique, il était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h heure de Rome. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.